Hervé Gattegno, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer votre tour d'horizon de la presse, un ministre qui a du vague à l'âme, c'est Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Qu'est-ce qu'il a ?
Eh bien, c'est en une de l'Opinion ce matin, mercredi soir, en prononçant ses vœux aux forces vives de la transition écologique et des territoires, c'est comme ça que ça s'appelle, Christophe Béchu a cité Johnny Hallyday. « Cette soirée me fait penser à une chanson de Johnny », a dit le ministre. Pas sa plus connue, pas sa plus facile. Dans « Poème sur la 7e », Johnny parle avec beaucoup de justesse d'un monde qui change, qui disparaît, qui n'est plus.
Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et des oiseaux. Allons ! Ne vous moquez pas de moi. Et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'affirmer que cela a vraiment existé? Ah, dites-moi.
On écouterait Johnny toute la nuit et toute la journée.
Oui, l'Opinion précise que ce morceau apocalyptique date de 1970, parole de Philippe Labro, et que la suite du discours de Christophe Béchu explique le coup de blues du ministre. Nous traversons une période où l'écologie risque gros, prévient Christophe Béchu. Constat réaliste, précise le journal, car la crise agricole remet en question plusieurs avancées dans ce domaine. Par exemple, l'Europe va déroger aux 4% de mise en jachère obligatoire des terres cultivables. Le gouvernement renonce à taxer le gazole non routier. Le plan de réduction des pesticides est suspendu. Une contre-révolution écologique résume carrément l'Opinion. La Croix parle de gestes d'apaisement. C'était en effet le prix à payer pour apaiser la colère du monde paysan. Il n'est pas donné ce prix. 400 millions d'euros au total sous forme d'aides, ristournes et exonérations diverses, a calculé le Parisien.
Autrefois, on appelait ça acheter la paix sociale. La question est de savoir si ces mesures seront suffisantes pour solder cette crise et arrêter le mouvement des agriculteurs. Et sur ce point, la presse n'est pas unanime.
Eh bien, disons que la presse régionale est moins catégorique que la presse nationale. Vosges Matin prévient, fin du blocage, pas de la rage. Et presque toutes les manchettes des grands journaux de province sont interrogatives ce matin. Stop ou encore, point d'interrogation dans la Provence. Sortie de crise, point d'interrogation dans la montagne. Levée des blocages, point d'interrogation dans Ouest-France. Fin des blocages, point d'interrogation dans Midi Libre, alors que, à Paris, pendant ce temps, Attal parvient à calmer la fronde, titre Les Échos. Après les annonces, les convois de tracteurs rebroussent déjà chemin, écrit Le Figaro. Comment la crise se débloque, explique Le Parisien. Quant à Libération, après avoir nettement soutenu la fronde, le voilà qui annonce. Et à la fin, c'est l'écologie qui perd, en reprochant à Gabriel Attal une salve de mesures protectionnistes et un recul sur la limitation des pesticides. Là, on ne songe plus à Johnny Hallyday, mais plutôt à Alain Souchon. Carrément méchant, jamais content.
Oui, et puis en France, c'est souvent « Allô maman, bobo » par exemple. Et parfois, faut voir comment on nous parle. Ce n'est pas tout à fait sans rapport avec l'agriculture, ce que vous dites, la viticulture plus précisément. Paris est la capitale mondiale des cavistes.
Et c'est le Parisien, bien sûr, qui nous l'apprend. Notre capitale est la ville où cette profession, qu'on n'appelle plus marchand de vin, est la plus représentée au monde. On compte 681 enseignes, nombre qui a doublé en 20 ans. 132 boutiques se sont ouvertes au cours des 3 dernières années. Et le Dry January... n'y changera rien, même s'il agace les cavistes. La filière ne s'est jamais aussi bien portée, écrit le Parisien. Les clients ont tous les âges et dépensent en moyenne 40 euros par visite. Le journal explique que le commerce du vin a profité du Covid. Avec la fermeture des bars et des restaurants, les professionnels du vin ont vu leurs ventes augmenter. Et les habitudes sont restées depuis. Les cavistes parisiens misent maintenant sur les Jeux Olympiques pour augmenter leurs chiffres. Si les touristes affluent et si la France gagne des médailles, on boira peut-être encore plus, mais avec des si, c'est bien connu, on met Paris en bouteille.
Oh joli ! Cette fois, on change vraiment de sujet. Une enquête du média en ligne Factuel annonce d'étranges complaisances avec une figure de l'islamisme sur Wikipédia.
Et oui, et ce personnage s'appelle Mohamed Hassan Dadou. C'est un prédicateur influent au sein des frères musulmans et c'est aussi l'auteur, il y a quelques années, d'un appel au meurtre contre la rédaction de Charlie Hebdo. Sur sa page Wikipédia, déclinée en 7 langues, ce détail, si j'ose dire, ne figure pas. Le personnage est présenté comme un savant musulman ayant mémorisé le Coran dès l'âge de 5 ans. Le site factuel souligne que sa fiche est régulièrement nettoyée par le même contributeur dissimulé sous le pseudonyme Panam 2014 pour écarter des informations cruciales. Par exemple, ses liens avec l'assassin du père Hamel en 2016, sa proximité avec le fameux imam Iqiyoussen expulsé l'an dernier et ses liens avérés avec le Hamas. Le contributeur, zélé qui le protège s'est fait une spécialité d'ajouter le qualificatif islamophobe sur d'autres pages Wikipédia, celles de journalistes connus, de personnalités et de mouvements politiques. Factuel dit avoir sollicité Wikipédia, aucune réponse pour l'instant.
Pour finir, une interrogation qui va bien au-delà de Wikipédia. Faut-il changer les noms de certains animaux et de certaines plantes parce qu'ils évoquent des personnalités controversées ?
Eh bien, c'est à lire dans le numéro de cette semaine de Courrier International. Après les noms de rues et les statues, faut-il s'en prendre aux noms scientifiques des bestioles ou des végétaux pour les rebaptiser de façon plus consensuelle ? Les organismes compétents sont assaillis de demandes en ce sens, révèle le Los Angeles Times. Par exemple, en 1933, un anthropologue allemand a baptisé un coléoptère Anophthalmus hitleri parce qu'il admirait le Führer. Un papillon identifié en Libye après l'invasion italienne a reçu, lui, le nom de Hippopta Mussolini. Ce qu'on découvre, c'est que le nommage d'une espèce nouvelle n'est que très peu encadré. Mais une fois que c'est fait, les experts ont tendance à vouloir privilégier la stabilité scientifique.
Et il y a même sur ce sujet une commission d'experts très sérieux qui a refusé de procéder à de tels changements.
C'est la Commission internationale de nomenclature zoologique, vous voyez, même ça, ça existe, qui a été saisie de ce problème en 2023. Ces 26 membres ont opposé un niet à l'idée de remplacer des noms scientifiques en raison d'une connotation jugée insultante. Par exemple, des plantes dont le nom comprend le mot kafir, qui signifie mécréant ou infidèle en arabe et qui est tenu pour une injure raciste en Afrique du Sud. Le problème, révèle le Los Angeles Times, c'est que la question peut être plus compliquée. En 2017, un papillon californien qui porte des écailles jaunes sur la tête et possède un appareil génital plus petit que d'autres espèces, a été appelé Neopalpa Donald Trumpy. Un amphibien fouisseur a été baptisé Dermophis Donald Trumpy par un chercheur qui estimait que l'ancien président américain s'enfouissait la tête dans le sable sur le dérèglement climatique. Le journal rappelle aussi que le papillon nommé Hitler a bien failli disparaître de la planète parce que tous les nazillons voulaient en accrocher un exemplaire dans leur salon. Il est regrettable que les adorateurs du nazisme ne soit pas, eux, une espèce en voie de disparition.
Ouais, surtout que nazillon rime un peu avec papillon, mais c'est un hasard absolu. Hervé Gattegno, merci. Je vous dis à lundi. Un instant, Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani sont nos esprits libres du vendredi.